tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Ben.
Salut à tous.
Et de Dwayne.
Hello tout le monde.
Alors attention les gens, hein. Dwayne et Ben réunis dans le même podcast, je ne sais pas si c'était arrivé avant, mais en tout cas c'est exceptionnel, profitez-en. Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de Legendary Gary. On enchaînera ensuite sur le Kickstarter de Super Mighty Power Man. Nous évoquerons également un certain Dayland, le prochain jeu de Ben, je crois. Nous évoquerons également Demon's Souls. On enchaînera ensuite sur Activision. Nous parlerons ensuite de Falcom. Et enfin, nous terminerons par une petite séquence sur le speedrun. Et oui, ça y est, on est dans la saison là. Il y a notamment deux marathons qui vont avoir lieu prochainement. Et on va faire un petit rappel, n'est-ce pas? Allez, c'est parti, et on va commencer avec Legendary Gary. Alors, je crois que dans le sommaire de l'émission, j'ai dit que c'était Persona qui rencontrait Jumanji. Vous jouez un gars, bon, donc Gary, hein, qui est un peu un it, je crois qu'on peut appeler ça comme ça, hein. C'est-à-dire le mec qui est un peu enfermé chez lui, qui est un peu dans son monde, etc. C'est le concept de Persona, tu sais, avec un jeu qui est divisé en deux phases. Alors dans Persona, c'est la phase de lycée et la phase de donjon. Et dans Legendary Gary, en fait, il y a la phase de jour où il est chez lui, où il vit sa vie, et la phase de nuit où il est sur un jeu, en fait. Un jeu qui me rappelle Jumanji, tout simplement. Enfin, moi, quand j'ai vu les visuels du jeu et j'ai même vu le concept, je me suis dit, mais c'est Jumanji, en fait. Vous savez, dans Jumanji, les gamins, ils ont découvert une boîte de jeux dans leur grenier, qui les a amenés dans un autre monde, etc. Lui, il a reçu un code de jeu, hein. Ça y est, on est au 21e siècle.
Ça, c'est le Jumanji actuel.
Et voilà. Il a reçu un code de jeu pour le télécharger et c'est chelou parce que, alors déjà, bon, il y a une version un peu idéalisée de lui, où il est beaucoup plus baraqué, alors que dans la vie réelle, il est un peu potelé, etc. Enfin bref, déjà ça, j'aime beaucoup. Et ensuite, apparemment, il a des impressions déjà vues, c'est-à-dire que il y a des trucs qui se passent dans le jeu, qui a l'impression que ça a un impact dans la vie réelle et tout. Donc moi, vraiment, le concept, j'aime beaucoup. Apparemment, en plus, le gars est assez connu. Enfin, il a bossé sur The Last of Us et il avait aussi son projet perso qui était What Remains of Edith Finch, si vous connaissez. Dans tous les cas, en termes d'ambiance, t'as l'air de voir quelque chose de différent, quoi. En termes de visuel, etc. Moi, c'est suffisamment unique pour attirer mon œil. Et puis, le concept d'un jeu qui se divise en deux phases de gameplay, où tu vas avoir des phases plus RPG le soir, où il joue à son jeu de rôle. Et dans la journée, t'as plus une phase un peu visuelle nouvelle à la Persona. Bah, moi, j'aime beaucoup, quoi.
Ouais, mais Evan Rogers, en fait, c'est sûr, on voit, en fait, qu'il a une patte. C'est un peu comme tous ces concepts, en fait, qu'on a sur Adult Swim, donc tous ces dessins animés un peu pour adultes. Bon, maintenant, c'est un peu plus populaire avec Rick and Morty, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un visuel où tu sens qu'il y a une patte et puis vraiment une vision d'auteur, un peu, j'ai envie de dire.
Et la musique aussi, hein, je tiens à souligner, ouais, la bande-son est totalement lunaire.
C'est bien à l'ambiance.
Ouais, la bande-son, il est aidé, mais tout le reste, c'est lui qui le fait, bah, que ce soit au niveau game design, le visuel, etc.
L'animation aussi, il a fait un taf de ouf sur l'animation.
Effectivement,
ouais,
c'est vraiment classe. Enfin, après, c'est un style qui peut rebuter, c'est-à-dire c'est assez spécifique, mais en tout cas, c'est,
bah,
si
c'est
on
tranché,
adhère,
oui,
voilà,
ouais,
si on adhère, c'est vraiment classe. Et ouais, même le concept au niveau du gameplay, il dit lui-même qu'il veut faire quelque chose d'assez, on va dire, tranquille au niveau des mécaniques, c'est-à-dire qu'il y aura pas de limite de temps ou autre. Il veut un aspect un peu puzzle.
C'est déterministe, voilà, en termes de tactique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de GD, en fait.
Exactement.
Un peu comme dans Divinity Original Sin 2, quand tu fais une action, tu sais qu'elle va passer. Alors par contre, le problème de ça, c'est de faire un système qui soit pas chiant avec ça, quoi. Il faut que tu aies un système suffisamment varié pour que ça soit intéressant. Donc voilà, un projet à suivre. Inutile de vous dire que, enfin, moi, je suis fan du concept là. Je suis totalement emballé.
Ouais, très classe.
Allez, on va parler maintenant, mon cher Ben, d'un projet qu'on avait déjà évoqué ici en compagnie de Pixel. Ce projet, c'est Super Mighty Power Man.
Voilà, donc c'était un projet Kickstarter d'un studio français. Et on a appris là que la campagne Kickstarter était annulée. Donc à première vue, on pourrait se dire bah c'est une mauvaise nouvelle, il s'est passé quelque chose. Et puis on apprend que finalement le studio a été approché par plusieurs éditeurs. On n'en sait pas plus pour l'instant, il n'y a pas encore de contrat signé ou de choses comme ça. Mais voilà, s'il a été retiré de Kickstarter, c'est parce que des studios l'ont approché, et ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour eux.
Quand même, il précise aussi qu'il se rend compte que la campagne n'a pas
Oui.
suscité suffisamment d'intérêt. Là-dessus, je suis un peu plus dubitatif parce que moi, les chiffres que j'avais vus, etc., enfin, c'est sûr que ça allait être compliqué, mais c'était encore jouable. Je subodore qu'en fait, il s'attendait à ce que ça cartonne beaucoup plus que ça, parce que quand même, ça repose très clairement sur une sensation un peu nostalgique à la Shovel Knight, et je pense qu'il s'attendait peut-être aussi à faire un score un peu plus
Peut-être.
élevé que ça, quoi. Même si moi, bon, je suis toujours un peu dubitatif sur les projets comme ça, qui jouent essentiellement sur la nostalgie, parce que c'est des projets très difficiles à faire. Parce que comme c'est des projets qui innovent pas, ben, il faut qu'ils soient parfaits sur ce qu'ils font, quoi.
Oui, c'est
J'avais dit que c'était pas beaucoup ce qu'ils demandaient, hein, pour un projet français, parce que le niveau de vie en France est quand même un peu plus élevé, on va dire, qu'en Chine, tu vois. Donc, il aurait fallu le sortir assez vite, le jeu. Donc bon, j'espère pour eux que leur contact, ça va bien se passer.
Ouais.
Mais ça avait l'air très très propre. Donc j'espère que, ben, écoute, les contacts qu'ils ont réussi à récolter grâce à cette campagne leur permettront peut-être finalement d'arriver à quelque chose qui sera mieux fignolé que si c'était basé que sur le Kickstarter et peut-être éventuellement en accès anticipé. Parce que faut pas croire, hein, les indépendants, s'ils pouvaient travailler à chaque fois avec un éditeur, ils le feraient, hein, parce
Bien
que
sûr.
un éditeur, c'est beaucoup de soucis en moins, notamment en termes de gestion de budget, etc. Il y a des gens qui sont pas forcément équipés pour non plus, qui veulent pas se taper la gestion de la communauté,
Oui, tous les à
etc.
côté, eux, ces deux gars, c'est sûrement des développeurs à l'origine. Donc après, il y a plein de choses à côté qui sont pas forcément simples à gérer et qui peuvent te faire perdre du temps sur ton vrai taf. Et du coup, c'est vrai que c'est d'avoir un éditeur, c'est lui qui s'occupe de tout ce genre de choses. Donc ça aide beaucoup. Ouais.
Dwayne?
Bah moi c'est le type de projet typiquement qui enfin en tout cas pour le studio j'espère qu'ils vont réussir effectivement à trouver un éditeur ou autre, mais c'est vrai que moi enfin mon point de vue personnel c'est que c'est très compliqué dans le sens où il y a plein de gens qui ont effectivement cet aspect nostalgie rétro, mais par exemple dans mon cas il est déjà comblé par certains titres comme Shovel Knight où je reviens. C'est-à-dire que par exemple Shovel Knight, c'est pas un jeu que j'ai fait et que je termine, c'est un jeu qui est là et sur lequel je reviens de temps en temps. Et c'est, je pense, peut-être le cas pour d'autres personnes et c'est ce qui fait que ce type de jeu n'est, enfin, c'est pas des jeux où tu vas vraiment te dire, ah ouais, j'ai envie de le faire. C'est plutôt des petits titres où tu vas revenir, enfin, combler cette petite Madeleine de Proust, ce petit appel
Après, le
nostalgique,
truc,
quoi.
c'est que là, on est quand même dans un genre un peu différent de celui de Shovel Knight. Enfin, le Megaman-like, c'est
Ouais,
pas
bien sûr.
pareil que un DuckTales, quoi, on va dire. Mais le truc, c'est que, comme l'avait dit Mordren au moment où on avait parlé du projet, je me demande si Martin Bernheim n'est pas passé par là et a pas fait beaucoup de mal.
Oui, il y
C'est
a
ça.
ça, c'est sûr que ça aide pas du tout.
Ça, plus
C'est
le fait
clairement.
qu'il y a eu des Megaman-like sur Steam, notamment des Megaman-like en mode roguelike, etc. Donc,
Ouais.
c'est pas non plus un concept qui a totalement été inexploité
Bah c'est ça,
ces
disons que
dernières
pour la
années, quoi.
nostalgie, il y en a déjà beaucoup qui sont passés avant, et aujourd'hui faire un truc juste sur la nostalgie qui apporte pas vraiment grand-chose en plus, ça devient très compliqué.
Et surtout, faire un projet Kickstarter où t'as pas de démo.
Ça, ouais.
Donc, on va parler d'un autre projet Kickstarter qui, pour le coup, a réussi sa campagne, mais vu ce qu'il demandait, bon,
Oui.
Ouais,
il demandait 10 000 dollars, hein, donc voilà. D'ailleurs, ça va être un de mes problèmes avec cette campagne, c'est que pour un projet espagnol, hein, je veux bien qu'ils aient pas le même niveau de vie qu'en France, mais quand
C'est
même,
quand même pas beaucoup, ouais.
c'est quand même pas beaucoup. C'est vraiment pour se faire de la pub et lancer un early access, à mon avis. Et c'est quoi ce projet, Dwayne?
Alors, donc c'est Dayland, bah comme tu l'as dit, ils demandaient 8 408 euros et ils ont reçu pour l'instant un peu plus de 17 000 euros. Il reste 4 jours au niveau de la campagne. Donc c'est un RPG sandbox avec donc va y avoir des mécaniques à la fois de farming, de craft. Tu vas pouvoir faire des constructions. Il y aura également pas mal de combats, donc ça va arriver sur à la fois PC, PlayStation 4. Donc c'est un peu une expérience en solo, où tu vas avoir quelques surprises, des moments calmes, etc. Donc eux, ce qu'ils veulent faire, c'est un peu...
Harvest Moon rencontre le petit
prince. Voilà, exactement. Eux, ils ont des... On va dire des influences comme Final Fantasy, Dragon Quest. Ils citent bien sûr Stardew Valley et Harvest Moon. Ils surfent un peu sur cette vague qui revient avec Stardew Valley justement qui a cartonné. Donc là on est vraiment dans un univers 3D où t'as un monde un peu plus conséquent. Donc on va voir effectivement ce que ça va donner. Moi je suis pas pour l'instant extrêmement fan de ce style. Je vais essayer de m'y mettre avec Stardew Valley, c'est que je m'y suis j'aimerais vraiment plonger. Bah justement Ben, toi qui es fan, qu'est-ce que ça t'inspire ce type de projet?
Le problème, c'est, on va revenir un peu sur ce qu'on disait avant, c'est que c'est devenu un peu à la mode, et que là, depuis 6 mois, ce genre de jeu, il y en a un peu de partout qui sortent. Il y a eu Yonder qui est sorti il y a quelques mois, où lui, il n'y avait pas la dimension combat, mais il y avait tout le reste était là. Tyran, toi, t'avais testé aussi My Time at Portia, je crois, c'est ça?
Ouais.
Qui est vraiment.
Que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs.
Qui est exactement la même chose, a priori.
Alors, My Time at Portia, c'est plus, comment ça s'appelle l'autre série, pas Harvest Moon, mais tu sais, où tu gères un workshop. C'est moins l'aspect ferme, mais plus l'aspect je gère mon magasin, etc. Ce qui est un peu différent quand
comme
même.
Tous les ateliers, là.
Ouais, voilà.
C'est ça. Ouais, mais c'est vrai que, alors, ça a l'air plutôt joli. Ça a l'air plutôt sympa. Mais après, voilà, dans ce qu'il montre et dans ce qu'il propose, je vois rien qui me donne plus envie, en fait, par exemple, que de passer du temps sur un Stardew Valley. Alors, Stardew Valley, c'est quand même assez différent, parce que c'est de la 2D, c'est vraiment beaucoup plus old school. Mais, voilà, moi, je suis pas plus hypé que ça, peut-être parce que, voilà, en ce moment, il y en a trop qui sortent, et que, c'est dur d'innover aussi dans ce style de jeu au bout d'un moment, donc ça tourne un peu en rond, j'ai l'impression.
Je pensais à Rune Factory, je cherchais le nom, ouais. My Time at Portia, c'est vraiment plus proche de Rune Factory.
D'accord. Ouais.
Sinon, sur le principe, je suis d'accord avec toi, Ben. À la base, j'ai eu un peu la même réaction que toi. La première fois que j'ai vu ce projet, je me suis dit, encore.
C'est
là où je me dis que le concept peut être intéressant, c'est que ce qui m'a poussé à parler de ce projet, c'est l'aspect Petit Prince, dont on n'a pas parlé jusqu'ici. C'est-à-dire que, en fait, on joue un personnage qui vit sur une mini-planète et je pense que si ils négocient bien leur coup, ce genre de jeu, ça se prête bien à te faire découvrir les spécificités d'un univers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le prétexte d'aller chercher des ressources, tu vas dire, je vais faire comme d'habitude, et puis, finalement, ça fonctionne pas comme ça. Mais j'ai peur, en fait, que, au lieu de chercher à faire quelque chose d'original, on se retrouve finalement avec un Stardew Valley avec une skin Petit Prince, quoi. Dans ce que j'ai vu, tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils aient profité de l'originalité de leur univers pour faire quelque chose d'un peu plus fou, tu sais, en termes de mécanique, quoi. Donc, je lui laisse le bénéfice du doute, mais il va falloir vraiment qu'ils fassent des efforts pour sortir du lot, quoi. Et là, encore une fois, un problème du truc, c'est qu'il n'y a pas de démo qui est disponible. Parce que My Time at Portia, certes, j'avais bien aimé les visuels, mais il y aurait eu que les visuels, j'en aurais pas parlé, hein. Très clairement. C'est quand j'ai joué au jeu, et j'ai vu certains aspects de la narration, etc., que je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et c'est dommage qu'ils aient pas mis une démo sur celui-là, quoi. Autre chose, ils parlent de narration dans la page du Kickstarter. Je trouve que pour des gens qui se vantent de faire de la narration, ça a pas l'air terrible, hein, leur vidéo de présentation, etc. C'est archi classique. C'est quand même un aspect important de ces jeux-là, quoi. C'est-à-dire que Stardew Valley, c'était pas le jeu avec l'histoire la plus folle du monde, tu vois. Mais je pense que tu seras d'accord avec moi, Ben, c'est quand même un jeu où il y a une certaine écriture des personnages.
Totalement,
notamment.
Il y a vachement de sous-entendu, il y a une grosse critique de la société actuelle. Enfin voilà, c'est pas une histoire de fou, mais il y a un certain background quand même dans le jeu. Ouais.
Alors que là, ça a l'air plus histoire de JRPG classique qui arrive avec ses gros sabots, et ça me fait un peu peur.
Ouais.
On verra bien. Écoute, à surveiller. On va maintenant parler d'un jeu qui va perdre ses fonctionnalités en ligne au Japon, Dwayne.
Effectivement, bah c'est avant Dark Souls, on a eu du coup Demon Souls hein, par From Software sur PlayStation 3. Donc il y avait cette composante justement multijoueur. On pouvait en fait laisser des messages par rapport à ce qui allait se passer à un endroit précis.
On pouvait laisser des faux messages
aussi. On voit les mecs très trollolo quoi.
Je ne vois pas de quoi tu parles, Dwayne.
Voilà, et on pouvait aussi rejoindre du coup quelqu'un pour l'assister ou le tuer. Donc malheureusement, en fait, cette fonction va s'arrêter, mais uniquement au Japon. Donc c'est prévu pour le 28 février prochain. Donc par contre, pour l'instant, on n'est pas a priori impacté. Donc on va quand même attendre de
mais
voir...
Parce que c'est Atlus qui gère voilà. Les serveurs en Occident.
En Europe, en Amérique du Nord, donc vu que c'est Atlus, pour l'instant, on n'est pas encore impacté et il n'y a pas de fermeture prévue dans l'immédiat.
Mais bon, si vous voulez vous essayer à Demon's Souls, c'est peut-être le moment parce que je subodore que ça ne va pas tarder quand même. C'est un petit bout du jeu qui s'en va et vraiment, ça fait bizarre. Je pense que le jour où ça arrivera sur Dark Souls, notamment, il y aura un drame, mais typiquement, ça serait bien que les créateurs réfléchissent à des solutions pour permettre aux joueurs de mettre en place leur propre serveur s'ils veulent pour préserver le truc, quoi. Ça serait bien. Parce que c'est vraiment un jeu où ça fait partie du truc, quoi. Le fait de voir les messages des autres qui te disent « Ah, va là !» et puis en fait, tu vas là et tu crèves comme une merde parce que c'est un piège connard. Ou au contraire, les mecs qui te filent un coup de main, etc. Ou les mecs qui laissent un message après un boss hyper dur où il y a marqué « I did it !» et tu partages la joie d'avoir réussi, quoi. Dans un jeu où t'as l'impression d'être seul en permanence, de t'enfoncer dans les ténèbres, d'avoir cette petite lumière écrite au sol où tu communiques avec les autres, ça fait partie de ces moments respiration du jeu et de la perdre, ça sera... L'expérience en sera différente en tout cas.
Non mais c'est sûr qu'on a tous ces... Enfin le multiplayer en général, ça va être un peu compliqué de voir tous ces jeux sur lesquels on est, enfin même ceux un peu moins connus. Et c'est toute une partie en fait, c'est vrai, du jeu vidéo bah, qui va un peu vraiment disparaître. Et là, dans le cas présent, bah, c'est vrai que c'est une composante d'un jeu qui est encore joué par une frange beaucoup moins importante de joueurs, mais qui est encore utilisée et qui disparaît. C'est vrai que c'est un peu...
C'est un peu comme jouer à Journey, sans le multi, tu perds une partie de l'expérience,
ouais,
très
bien
clairement.
Sûr.
C'est sûr.
Mais bon, après, c'est systémique. J'ai envie de dire aussi, les devs vont pas garder ça indéfini. Enfin, on peut pas leur demander...
Je suis d'accord, mais alors... Deux choses, il y a le problème des consoles où quand même les gens payent un abonnement parce que
ouais,
nous on s'en fout sur PC, je veux dire on paye pas d'abonnement donc on n'a pas à se plaindre, tu vois, on paye pour aucun service. Donc ils ont pas d'obligation envers nous. Par contre sur console, on a quand même vendu le truc en mode vous payez un abonnement mais vous avez un service derrière. Donc il y a déjà ça. Et même il faut réfléchir à ces questions de conservation d'une manière générale, c'est-à-dire que il faudrait que de plus en plus dans les studios de développement on commence à intégrer qu'il faut des solutions de long terme pour que, après que le jeu ait vécu sa vie, les joueurs puissent prendre le relais. C'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Parce que sinon, on a une partie du jeu vidéo qui va être rayée de la carte, quoi, en fait. Et c'est un problème. Bon. On va maintenant parler de la news trollo de la semaine, mon cher Dwayne.
Tout à fait. Donc, c'est Activision, hein. Donc c'est un couple qui a lancé un service qui s'appelle Call of Duty, donc qui est un service de ramassage de défections canines. Donc tout simplement, Activision s'est dit, bah ça ressemble à notre nom ça. On va aller essayer de monter un dossier pour éviter que la PME dépose ce projet-là.
Oui, parce que évidemment, à part dans les cerveaux malades des marketeurs d'Activision, personne n'aurait fait le rapprochement entre les deux. Mais écoute, il se trouve que malheureusement, les marketeurs d'Activision sont un peu particuliers et que on utilise le copyright pour ce genre de choses, quoi.
Ah, je crois qu'ils partagent les mêmes avocats avec la maison mère de. de Prey, etc. C'est Zenimax, il me semble, qui, Prey of the God. Ah oui, ça ressemble à notre nom. Ça va être, surtout, vu les chiffres qu'on fait Prey, ça avait l'air très utile
d'attaquer. Ouais, de se taper de polling pour ça, oui. Mais encore, Prey for the Gods, tu pouvais dire, allez,
Ouais, bon, mais non, arrête.
À la
non.
limite, c'est du jeu vidéo, tu vois, il y a encore un point commun, quoi. Ouais,
là,
en creusant
vraiment,
bien.
Là, il faut aller chercher loin.
Bon, je suis d'accord, il fallait creuser profond, mais en creusant bien, c'était du jeu vidéo. Voilà. Là, c'est même pas du jeu vidéo, quoi. C'est-à-dire que on en est à un stade où les mecs sont tellement soucieux de leur image de marque, parce que c'est clairement ça, en fait.
Oui, c'est que ça. Ouais.
Qui vont faire chier un pauvre couple qui ouvre un service de ramassage d'éjection canine.
Ce qui est assez ridicule, vu qu'en fait, le fameux Call of Duty, ça fait en fait juste de la pub en plus. À côté de ça, c'est un autre service, enfin, qui a aucun rapport, quoi.
C'est... Non, mais le pire, c'est que, du coup, les gens vont appeler Call of Duty maintenant, tu vois.
Bah voilà.
Personne n'aurait entendu parler de ce truc.
Exactement.
Voilà, là, c'est effet stressant. Faut pas faire ça, parce que ça produit l'exact effet inverse de ce que tu voulais faire. Et clairement. Là, pour le coup, l'image de ta marque, elle est dégradée parce que tu es allé faire chier un pauvre couple qui avait rien demandé, quoi.
Bah oui, parce que finalement, à part en Californie, personne n'aurait entendu parler de ce service. Donc maintenant, ils
c'est
ont
ça.
Mondialisé le terme et puis voilà, on va les appeler comme ça maintenant.
Ah, moi, je propose qu'à partir de maintenant, sur Game Info, règle de Game Info, je pense que si un jour je fais une charte, je l'écrirai dedans, charte des podcasts, on remplace Call of Duty par Call of Duty.
Voilà. Voilà, et si tu dis Call of Duty, strike.
Voilà, strike, censure du chef, etc. Voilà.
Le problème, c'est que chez ici, on parle quand même rarement de Call of, donc bon.
C'est... Ah oui, c'est sûr que ici, on n'utilisera pas souvent les termes. Hein.
C'est ça.
Bon, je vous propose qu'on passe à la suite. Non, mais encore une fois, le copyright, la magie, tout ça, c'est beau. Hein. Enfin, c'est des véritables magiciens, moi, ils me font rêver. On va parler de Xseed, Ben.
Oui, avec notamment la Xseed qui a annoncé la localisation de Svei, premier du nom qui était sorti il y a très très longtemps. Donc ils avaient sorti la suite de la série, enfin le numéro 2, il y a quelques temps déjà.
Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, c'est il y a 2-3 mois je crois.
Oui voilà, ouais, c'est assez récent. Et là du coup, ça a dû bien marcher. Donc ils annoncent aussi le premier Svei qui va sortir... hiver 2018 sur Steam. Donc c'est un RPG 2D à l'ancienne vraiment, mais qui est pour le coup très très joli. Vraiment,
voilà.
Ils ont fait
sauf
du boulot
certains boss où ils se sont dit tiens, si on faisait des boss en 3D dans notre jeu super beau en 2D, parce que pourquoi pas, hein. Mais sinon, magnifique. Hein. Les décors, tu sais, c'est un jeu qui est sorti en 2001, ça fait partie de cette époque un peu charnière où on n'avait que des jeux 3D, mais il y avait quelques jeux 2D comme ça qui exploitaient à fond les technos de l'époque et qui en profitaient pour pourtant mettre plein la vue, et Zoé, il en fait partie, quoi, très clairement.
Oui. Donc c'est une fois de plus une bonne nouvelle, Xseed, qu'on aime bien généralement ici quand même, qui fait pas mal de bon boulot, une fois de plus, merci quoi.
Bah, ils font un super taf de localisation en général, enfin ils ont un souci des traductions, etc. Alors juste, je voulais noter une chose en termes de gameplay, c'est un action RPG certes, mais c'est un action RPG où tu vas leveler en mangeant des
en
trucs,
mangeant, ouais.
Et rien que pour ça, ils me l'ont vendu. Ah, je veux dire, un jeu où tu level up en bouffant, c'est pour moi, hein, c'est très clairement.
Je connais pas du tout la série, moi, j'ai jamais joué, donc ça sera peut-être l'occasion de découvrir.
De façon Falcom, parce que c'est un jeu Falcom, encore une fois, c'est le underdog japonais qui a quelques séries comme ça qui sont pas très connues chez nous. Et moi, ce qui m'attire aussi, c'est l'ambiance bon enfant typiquement japonaise.
Ah oui, là, ouais, c'est vachement coloré quand tu regardes.
Voilà. C'est un jeu que tu pourrais filer à des gamins, il y a pas de souci. Les héroïnes elles sont toutes mimi. Bon après, je pense que ce sera un jeu avec un humour typiquement japonais qu'il faut adhérer au truc. Mais moi, c'est ma came. J'ai été élevé avec ça, élevé au grain. Hein. Ça fait partie de ces jeux qu'on avait sur PlayStation, tu sais, un peu bon enfant. Soit dit en passant, petite pique vis-à-vis de la suite, qui était en 3D pour le coup. Et quand tu vois la suite en 3D qui est sortie en 2008, c'est là que tu te dis, oh putain, la 3D, ça fait du mal à certains jeux quand même. Hein. Alors certes, la 3D a apporté beaucoup de choses en termes de gameplay, et heureusement, mais alors en termes de visuel, quand tu passes du premier au deuxième,
ouais.
Ça fait un peu régression quand même, quoi. On va dire ça comme ça.
Bah, disons que le premier fait quand même beaucoup plus envie, ouais, c'est...
Bon, toujours au rayon Falcom, hein. On va parler de Nice America et de Falcom, ainsi que de leur partenariat, Doen.
Tout à fait, donc c'est Takuro Yamashita et Toshihiro Kondo qui se sont exprimés justement sur la localisation. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, c'est-à-dire qu'ils parlent de la localisation en français, en expliquant des plans détaillés sur le marketing, etc. Donc, chiffre intéressant qu'ils donnaient, c'est que par exemple, pour les précommandes d'un jeu comme Is 8, elles étaient 2,5 fois supérieures en France par rapport au Royaume-Uni. Et c'est en fait pas un cas isolé, c'est-à-dire qu'il y a... plein d'autres jeux qui se vendent bien justement, et donc ils en parlent pour pouvoir améliorer et faire de plus en plus de localisation en français, donc c'est une très bonne nouvelle.
Ce qui est d'autant plus étonnant que le Royaume-Uni, rappelons-le, c'est le plus gros marché en Europe. Donc ça veut dire que vraiment, en France, il y a une appétence, un historique,
exactement,
un public pour ce genre de jeu. Et je pense que Ben et moi, là, on va se regarder, on va dire, on n'est pas plus surpris que ça, hein, parce que nous, on est un évidemment. Peu de ces générations-là, hein, très clairement. Je parlais d'élevage au grain tout à l'heure, Ben et moi, je veux dire, les Suikoden, les Final Fantasy, etc. Enfin, déjà, on a une culture très japonisante de par chez nous, hein. Merci Dorothée. Non mais très clairement, hein, c'est ça.
Ah bah oui, bien sûr.
Alors, je pensais pas que c'était aussi élevé, par contre, je vous avoue que je suis assez surpris.
C'est très étonnant ce chiffre, ouais.
Parce que moi, je pensais, si tu veux, que certes, nous, notre génération, bon, on était là-dedans, mais les jeunes, ils sont
ouais,
moins,
mais ça
vois.
Rejoint un peu aussi tout ce qui se passe, c'est-à-dire le fait, enfin... Moi, j'ai pas été très jeu vidéo japonais au départ. À dos, je mangeais de l'anime en rafale. J'étais un boulimique. Et c'est après que je suis passé sur le côté jeu vidéo. Mais par contre, on voit aujourd'hui que la Japan Expo est l'un des plus gros événements dédiés à la culture japonaise. Alors que par rapport à la population de la France, finalement, ça ne devrait pas forcément être le cas, quoi.
Autre information importante. Il y a un autre chiffre que je trouve intéressant, c'est celui où ils disent que pour rentabiliser une localisation de ce type-là, il faut qu'ils vendent 10 000 exemplaires, ce qui est pas beaucoup. Je tenais à faire une précision, ça c'est pour un jeu comme Isuite qui est pas extrêmement bavard. Non, parce que je sens des gens venir faire des remarques à Xseed, parce que Xseed c'est l'autre boîte qui bosse avec Falcom. En disant bon Xseed, Legend of Heroes en français c'est pour quand?
C'est
oui
ça.
Alors
ça parle
Legend of
un petit
Heroes
peu plus.
Voilà c'est ça, c'est genre trois bouquins du Seigneur des Anneaux, un Legend of Heroes. Donc en termes de traduction, si vous voulez, pour la rentabiliser, c'est pas tout à fait les mêmes chiffres à mon avis. Là on parle vraiment de jeux qui sont pas extrêmement bavards non plus, où les dialogues sont réduits au strict minimum, quoi, dirons-nous. C'est pas les mêmes chiffres. Parce que vous avez ce chiffre-là, n'allez pas généraliser en disant que Isid aussi pourrait se mettre à traduire Legend of Heroes en français, par exemple. Déjà, Legend of Heroes, pour vous donner une idée à quel point c'est compliqué à traduire, personne ne voulait le traduire. Voilà. Il y a que Xseed qui a accepté de s'y coller et merci à eux d'ailleurs.
Oui.
Voilà. Dans tous les cas, bonne nouvelle. Ça veut dire que a priori, on aura d'autres jeux en français. Bon, je vous avoue que pour moi, ça fait pas une grosse différence parce que, par contre, ça, c'est la question que je me posais parmi les gens qui achètent ce jeu en France. Lesquels ils jouent en anglais et lesquels ils jouent en français, c'est vraiment une question à laquelle j'aimerais bien avoir la réponse. Mais bon, après, tant mieux pour ceux qui ne parlent pas anglais, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison de se priver.
Le truc, c'est que souvent, avec ces jeux-là aussi, on a tendance à les mettre avec les voix japonaises et la localisation française. En tout cas, c'est ce qui est le mieux pour pas mal de gens. Et même moi qui aime bien mettre tous mes jeux ou autres en anglais, parce que ça me permet en plus de le travailler en même temps, et c'est souvent les voix originales, bah avec les jeux japonais, je préfère avoir, enfin pour moi c'est l'idéal, les voix en japonais et tout le texte, etc. en français. Donc c'est ça reste quelque chose d'assez intéressant.
Alors, personnellement, j'ai tendance à laisser le jeu en anglais. Pourquoi? Alors, c'est pas de la pédanterie, hein, attention.
Ouais, ouais.
En général, les versions françaises, c'est de la traduction, en fait. Donc, du coup, jouer à la traduction, tu te retrouves avec des coquilles de coquilles, on va dire.
Ouais,
et c'est pour ça que, ayant l'habitude de jouer à des jeux, je veux dire, je me suis tapé Xenogears en anglais, a priori, c'est bon, je suis chaud, là. Surtout un jeu comme Is, qui est pas non plus le jeu le plus fabuleux en termes d'écriture, quoi. Après, je sais pas, vous, comment vous visualisez ça. Enfin, toi, Ben, par exemple, qui est un peu le même historique que moi, est-ce que toi, tu joues en français quand tu peux, ou...
Non, moi, je suis comme toi, vraiment. Par exemple, Persona 5, alors, de toute façon, je pense qu'il était qu'en anglais, même. Je pense qu'il n'y avait même pas de trad française, mais voilà, c'était voix jap et texte anglais, mais généralement, ouais, je fais ça.
Par contre, exception, les jeux où tu as des dialogues, par exemple, je sais pas, quand tu conduis ta bagnole.
Ouais.
Moi, typiquement, GTA, s'ils étaient disponibles en français, je les mettrais en français.
D'accord.
Enfin, les voix, je parle des voix.
Ouais, ouais.
S'il y avait des voix françaises, je mettrais les voix françaises.
Oui, oui, c'est sûr. Ouais, suivant le type de jeu, sur un RPG, bon, c'est assez simple, généralement, de lire les dialogues parce que, bah, c'est pas du temps réel.
Voilà.
Donc, voilà. Mais c'est vrai que quand t'as plusieurs actions à faire en même temps, ça peut, oui, je te comprends. Ouais.
Et d'ailleurs, tiens, dernier point, vous êtes plutôt, parce que je sais que parmi les fans américains, il y a tout le temps ce débat, en fait. Vous êtes plutôt, voix dans votre langue maternelle ou voix japonaise?
Ah, japonaise. Japonaise, direct.
Ouais, bah généralement,
oui, c'est...
Ouais.
Non, c'est trop... Enfin, parce que c'est fait en japonais, donc la direction d'acteur est faite avec les voix japonaises. Donc, c'est là où tu ressens vraiment ce qu'ils ont voulu faire. Parce qu'après, les voix anglaises, c'est d'autres directeurs qui peuvent faire un très bon boulot, mais en général, dans la majeure partie des cas, les voix japonaises vont être bien meilleures, quoi.
Mais surtout au Japon, je trouve qu'ils ont un respect.
Ils ont une culture, mais dingue.
Oui,
c'est des superstars, ouais. Quoi. C'est les.
Les acteurs sont très importants. Ils ont propre contrat, etc. Enfin, il y a un culte des voix au Japon. Et ce qui fait que ça se ressent dans les jeux, en fait. Nous, en Occident, bon, on a déjà évoqué le sujet plusieurs fois ici. Les acteurs occidentaux sont pas hyper bien traités. En général, ils arrivent sur le tard, ils ont pas toutes les infos, alors que au Japon, il y a vraiment ce souci du détail, quoi. C'est-à-dire qu'ils font partie intégrante du projet et ça se sent, en fait. Alors, c'est vrai qu'après, par contre, il faut adhérer au jeu à la japonaise. Très clairement, c'est surjoué, quoi.
Enfin,
ouais,
je comprends les gens qui n'adhèrent pas à ça, mais moi, justement, enfin, il se trouve que j'ai grandi là-dedans, donc moi, je m'en rends même plus compte, en fait, que c'est surjoué.
Ouais, ouais, ouais.
Bon, ben, on va terminer cette semaine de podcast, ma foi, assez courte. Il n'y avait pas beaucoup de news hein, cette semaine, mais bon, écoutez, on va pas les inventer non plus, c'est la fin de l'année. Hein. Et on va terminer, mon cher Ben, avec le speedrun.
Exactement, donc on va vous parler de deux manifestations de speedrun pour la bonne cause. Donc la première, c'est le week-end prochain, donc du vendredi 8 décembre jusqu'au dimanche soir, on sait pas vraiment à quelle heure, mais en gros le week-end prochain. Ça s'appelle Bourla Run, les fonds collectés seront au profit du Téléthon, et bah, donc j'imagine que c'est un marathon français, ça a l'air d'être des Français, enfin c'est même
ça.
Des Français qui l'organisent.
Ça sera diffusé sur la chaîne du French Restream.
Exactement,
qui rediffuse notamment l'événement dont on va parler après, qui est The Big One, n'est-ce pas? Mais il se trouve que le French Restream va diffuser ça également. Je vous mettrai le lien vers la chaîne Twitch. Vous pourrez le suivre directement là-bas à partir de vendredi, c'est ça?
Donc vendredi 8, 18h.
début des runs à 18h.
Exactement.
Tout le week-end.
Avec pas mal de jeux, vraiment beaucoup de jeux au programme. Donc, on vous mettra le lien, je pense, pour voir tout le programme. Parce
ouais,
qu'on va pas tout citer.
Il y en a pas mal, ouais.
Il y a quelques-uns.
Moi, j'ai,
ouais.
j'ai hâte de voir celui de Transistor. Ça va être plutôt cool.
Ah, bah, moi, je pense que je serai là dès 18h parce que Dishonored, à mon avis, il va être bien cassé aussi.
Ouais, ouais, Dishonored.
Voilà, il y a pas mal. Il y a du Dragon Age, il y a du Street of Rage, il y a du Brother, il y a Castlevania. Enfin, c'est vraiment assez varié pour le coup.
Ouais,
c'est,
ouais,
ça peut être intéressant, ouais.
Et il y aura du Nier Automata. Attention, c'est la run de la hype, Nier Automata. Par contre, pas de Super Mario Odyssey, et vous verrez avec le marathon d'après, il n'y en aura pas non plus. Donc, voilà. Alors ça, c'est pour la France, n'est-ce pas? Précisons que, exceptionnellement, de ce que j'avais entendu, ce marathon sera rediffusé aux États-Unis. Ah. Donc, c'est pas dans les habitudes hein, des Américains de faire ça. Donc, c'est intéressant. Et par contre, évidemment, hein, The Big One, j'ai envie de dire, mon
The
cher
Big
Ben.
The Big One qui nous revient chaque année, c'est la GDQ.
Low Awesome Games Done Quick.
Exactement. Donc, qui sera, elle, ben, l'année prochaine, donc début d'année, donc du dimanche 7 janvier à 18h aussi. Et ça dure toute une semaine, donc jusqu'au 14 janvier. Donc là, c'est pareil, on commence ici à la connaître. Ça fait quelques années maintenant que ce soit la GDQ ou la SGDQ, on en parle régulièrement. C'est devenu assez énorme comme projet.
C'est un événement qui récolte des millions de dollars. Donc,
oui, voilà, ouais, vraiment, c'est devenu vraiment énorme. Je sais pas combien d'années ça fait que ça existe, ça doit être 4-5 ans je pense, quelque chose comme ça.
Un petit peu plus je me demande même.
Un petit peu plus, ouais.
Semble,
mais
ouais.
C'est, voilà, c'est, là c'est vraiment the big one, comme disait Tyran, avec vraiment tout un tas de jeux.
Donc pendant une semaine, non-stop.
Et toujours au profit de la bonne cause aussi, les fonds récoltés.
Alors, pas de run Super Mario Odyssey, n'est-ce pas?
Non.
Mais par contre, le marathon terminera sur The Legend of Zelda Breath of the Wild, la run de la hype. Attention, ce n'est pas la run Any% qui est pétée parce que, en gros, le jeu, il est fini en a rien de temps, quoi. C'est la run All Main Quest. Ils vont faire la quête principale, voilà, le plus rapidement possible. Ce qui fait qu'elle sera un peu plus longue que l'Any%, elle va durer 4 heures. Mais moi, personnellement, j'ai hâte de voir ça parce qu'à mon avis, ça va être une run avec des choses assez pétées en termes de moteur physique.
ça devrait être pas mal.
Ouais, justement, voilà. je vais éviter de le regarder comme je veux faire le jeu plus tard. Je vais éviter de me spoiler certaines choses.
Ah bah oui, Switch à Noël.
Autant les 10%, c'est pas dérangeant parce que en gros... ils vont péter la gueule directement à Ganon, donc bon, se spoiler le design de Ganon, tu t'en fous un peu, quoi.
Oui, non, mais là, c'est vraiment, ils vont faire toute la quête principale, c'est un peu dommage de se spoiler ça, ouais.
Bon, alors après, à mon avis, vu le temps de jeu, les puzzles, on va pas les voir, hein, mais...
Ouais.
Voilà, je pense quand même que le jeu, il va être bien cassé. Hein. Mais voilà, donc une semaine de marathon sur plein de gros jeux, hein, évidemment.
Non, là, il y a vraiment de tout. Ouais, c'est...
Je pense que Ben et moi, on va encore dépenser des sommes folles dans des t-shirts. Moi, en fait, l'Awesome Games Done Quick, en vrai, franchement, j'arrêtais rien à foutre. C'est le fait qu'il y ait des putains de t-shirts. non, mais je vais être parfaitement honnête. Hein. Moi, c'est des marathons que je regarde pour le speedrun et pour me refaire ma garde-robe. Hein. La charité, c'est bonus pour moi. Je sais que pour les marathons en question, l'objectif, c'est la charité, mais très clairement, je vais être honnête avec vous, moi, la charité...
Non, mais après, on lit
dessus,
l'utile
quoi.
À l'agréable, quoi. C'est-à-dire
voilà,
que
c'est ça.
Sûr.
On va dire que l'occasion fait le larron, quoi.
C'est ça.
Voilà. Deux marathons qu'on vous conseille de suivre. Vraiment, on est gâtés, hein. Fin d'année, début d'année... si vous voulez du speedrun, en voulez-vous, en voilà.
Et on a
quoi.
Surtout des cools, là, je suis en train de regarder le planning. Moi, je vais me faire mon petit Ratchet and Clank annuel. Ça va me ramener en enfance. T'as Ukulele que j'avais pas envie de faire, donc je vais regarder le speedrun tranquillou.
Je vais peut-être regarder celui de Bloodborne, moi, du coup.
Bah oui, clairement.
Précisons que Ben s'est lancé dans Bloodborne et qu'il s'est rendu compte que ce genre de jeu n'était pas pour lui, donc
pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas assez de temps pour m'y mettre assez dedans. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai, mais pour l'instant c'est trop compliqué. Ouais.
Ouais, mais en tout cas, c'est des événements qui sont assez cool. Enfin, t'as toujours des mecs. Enfin, c'est voilà, c'est
ah oui,
des
c'est
machines.
Très, très
enfin,
impressionnant.
Moi qui ai pas un skill énorme, c'est toujours impressionnant de voir les jeux que t'as galéré à faire, tu vois, le mec.
Moi, par contre, il y en a un, je vais regarder, c'est celui de Baldur's Gate 2. Parce que je vois 24 minutes.
Wow.
Sachant que j'ai une centaine d'heures sur Baldur's Gate 2, tu vois, je me dis, en 24 minutes, qu'est-ce qui va se passer?
Clairement, clairement.
Très curieux, là. Très, très, très curieux. Bon, dans tous les cas, voilà, le speedrun, c'est la vie, allez-y, si vous n'avez pas l'habitude de suivre, franchement, enfin, même si vous n'avez pas fait les jeux, des fois, si c'est des runs N%, honnêtement, des fois, ça vaut le coup de regarder, parce que, en fait, tu vois rien du jeu, donc...
Oui, c'est vraiment comment casser le jeu.
Bah oui, parce que, ouais, pour être honnête, au départ, enfin, quand je dis au départ, c'était il y a 10 ans, quoi, le speedrun, c'était pas un truc qui... Je me disais, ouais, bon, je sais pas, quel est l'intérêt, moi, je prends mon temps à faire mes jeux, tout ça, et puis quand j'ai commencé à en regarder, c'est là que j'ai eu le déclic, j'ai fait, ah oui, d'accord. C'est en fait c'est méga fun de voir justement ce jeu où t'as pris ton temps à faire etc et voir le mec totalement casser le jeu et soit par la maîtrise ou parfois par certains bugs etc et c'est super intéressant, tu découvres en fait une autre facette. Si vous avez jamais tenté, bah je vous conseille au moins d'essayer, ça peut vous pourriez avoir le déclic quoi.
C'est ça.
Généralement, maintenant, enfin, sur la GDQ, la SGDQ, en tout cas, il y a toujours des sites français qui streament le truc et qui le commentent. Donc, si vous avez peur de pas comprendre certaines choses, des fois, n'hésitez pas à aller sur des sites français. Généralement, c'est streamer.
Je précise que la GDQ, comme pour la run, ce sera sur le French Restream. C'est une chaîne Twitch qui a été créée justement par ceux qui s'occupaient du restream français de la GDQ et qui sont dit à un moment donné, bah, tiens, si on faisait autre chose, je vous incite également à suivre leur compte Twitter. Régulièrement, ils font des événements sur le speedrun. Et moi, j'aime beaucoup ces événements parce que autant je suis pas un actif de la communauté du speedrun, autant c'est des moments un peu de communion, tu vois, où toute la communauté se retrouve et ou même des gars comme moi qui suivent ça de loin pendant une semaine vivent au rythme en fait du speedrun, qui rentrent du boulot, qui vont voir ça, ouais vas-y on va passer une nuit blanche, tiens regardez ça, enfin vraiment pendant une semaine plus de vie quoi, c'est tu vis speedrun, tu bouffes speedrun, t'es à fond dedans quoi, ça fait partie du charme de l'événement je trouve. Voilà, bon messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine.
Oui,
tout à fait.
Alors je précise, le podcast de la semaine prochaine sera le dernier podcast de l'année, n'est-ce pas ? Ciao tout le monde !
Bye bye !
Salut !